Mats Frédéric Vézian, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman de votre BD « Les papillons ne meurent pas de vieillesse ». Première question, comment vous êtes-vous rencontré? Est-ce que c'est un salon de la BD? Est-ce que vous partagez une table de dédicace à Angoulême?
Pas du tout. C'est vraiment c'est une histoire privée.
Non, ça commence fort, là.
C'est d'ordre privé, c'est juste qu'on se connaît depuis un certain temps. On est voisins dans le sud. On a mis un certain temps avant de se décider à bosser ensemble, parce qu'on n'avait même pas l'idée, quoi.
Alors, parlez-nous de l'origine de ce projet. Vous êtes parti d'un fait divers?
Alors, à l'origine, il y a deux choses. Il y a un fait divers, une histoire d'entomologiste qui s'est fait tuer en Amazonie. Et ma passion éternelle des papillons. Et cette histoire de... J'ai dans ma collection un papillon qui est éteint, dont l'habitat a été détruit, donc l'espèce a disparu. Et donc ça m'a donné cette idée d'une éventuelle évolution, d'un déménagement du papillon dans un autre endroit, chose qui n'existe pas a priori, mais je me suis dit, et si, comme on fait souvent pour inventer une histoire, et si on retrouvait le même papillon à quelques milliers de kilomètres de son habitat naturel, mélangé avec l'histoire de l'entomologiste, ça donne ça.
Alors, dans les remerciements, vous citez Camille Piouf, gérant depuis plus de 30 ans de la boutique Nature et Passion, qui est située rue Dupont de l'Eure à Paris. En quoi vous a-t-il inspiré?
C'est-à-dire que c'est un entomologiste qui a une petite boutique dans laquelle il y a des papillons, des araignées, tout un tas d'insectes. Lui, c'est un passionné, encore plus que de papillons, de carabes. Ça fait très très longtemps que je fréquente sa boutique, et donc lui, on est devenu amis au fil du temps. Je lui ai acheté pas mal de papillons, des sauterelles, des trucs, et je lui ai posé toujours 1000 questions, et il m'a servi un peu de consultant scientifique pour l'album. Frédéric. Et il a donné son prénom au personnage principal.
Frédéric, vous connaissiez le Camille?
Ah, le Camille, je l'ai toujours pas rencontré.
Ah bon?
Non.
Donc ça ne vous a pas du tout inspiré
sa boutique? Non, pas du tout. J'ai dû trouver mon inspiration ailleurs.
En prélude, vous citez Ramon Gomez de la Serna, connu pour ses grégérias. J'en ai une autre que vous ne citez pas, le papillon qui se pose sur les fleurs et le dactylographe du jardin. C'est beau quand même ça.
Mais Ramon Gomez de la Serna, c'est un génie absolu. Moi, c'est un de mes écrivains préférés. Et c'est vrai que grégérias sont très très drôles et très poétiques. Et c'est une source d'inspiration constante.
Les papillons que vos personnages, donc Camille et Géraldine, recherchent, existent-ils vraiment? Bon, parce que j'ai vu que le Parides ascanius, le Macaon fluminens, est bien réel. Mais le Parides ascarius nolentus... Est-ce que c'est une chimère?
C'est une chimère, c'est un personnage... C'est un personnage... C'est un papillon dont j'ai inventé la sous-espèce pour les besoins de cette histoire. Mais effectivement,
une espèce existante.
Il s'inscrit dans la famille des Parides, qui est une grande famille de papillons d'Amérique du Sud, et le Parides ascanius, qui est un ancien papillon de Rio. Donc j'ai créé une sous-espèce pour les besoins de cette histoire.
L'ouvrage est aussi un côté didactique. Comment avez-vous assurez-vous l'équilibre entre le thriller et les plans scientifiques?
Bon, en fait, il s'agissait d'abord de faire quelque chose de documenté, mais pas documentaire. C'était pas seulement le but. Et puis, il se trouve que, certes, graphiquement, les ruptures de rythme entre l'histoire elle-même et puis, de temps en temps, ces interruptions purement documentaires, ces imitations de double page d'encyclopédie du 19e ou cette double page avec des haïkus qui ont tous trait au papillon, sont non seulement des alibis pour créer du rythme, un rythme interne à l'histoire, mais ça répond aussi à une volonté de Mats de se cousiner avec la structure du roman Moby Dick, qui lui-même est aussi un récit de quête, qui n'aboutit pas vraiment, mais qui est aussi interrompu par tout un tas de considérations documentaires sur les baleines, sur les cétacés en général, etc.
Dans Moby Dick, il y a des chapitres qui décrit le, qui sont très très étonnants, très troublants, le squelette de la baleine. Il y a tout un tas de chapitres comme ça, et ça m'a inspiré. L'idée, c'était de faire un peu la même chose, parce que d'une part, ça offre, ça change de perspective, ça rompt le rythme de la BD. Et moi, j'aime toujours bien les secouer un peu le lecteur avec ce genre de rupture. Et puis, par ailleurs, ça illustre le fait que le papillon a fasciné l'homme toujours et partout. Et c'était une façon d'élargir aussi le récit. On n'est pas juste dans cette petite quête individuelle, mais dans un récit plus large.
L'entomologiste va sensibiliser bon nombre de sympathisants, mais parfois on peut s'interroger sur leur motivation. Il y a la solidarité, la générosité, mais je crois qu'il y a quand même aussi l'ego, la recherche d'une certaine célébrité, et puis sortir l'occasion d'utiliser les armes, non ?
Ah oui, bah, de toute façon,
c'est déjà, là on parle de plusieurs personnes à la fois.
Ouais.
C'est pas exactement Camille.
Non, je parle des sympathisants.
Avec l'idée que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais oui, bah c'est, les choses sont toujours complexes. Et ce qui est intéressant dans le scénario, c'est d'essayer de rendre cette complexité, les motivations multiples, que chaque personnage ne soit pas d'un bloc. Et que parfois, effectivement, on peut s'interroger sur les motivations des uns et des autres, même quand elles ont l'air honorables. Moi, je trouve que c'est toujours un bon sujet.
Mais le fait est que ça a évité aussi de sortir d'une espèce de manichéisme dans lequel on aurait pu facilement tomber. Avec, les multinationales, c'est pas bien, faire des feux dans la forêt, c'est pas bien non plus, etc. Le seul qui fait vraiment figure de naïf un peu monobloc, comme ça va être Camille,
et
qui arrive avec son idéalisme et sa naïveté, mais face à des choses qui sont beaucoup plus complexes que ça et beaucoup moins qui vont pas dans un seul sens, quoi. C'est pas évident.
Oui, il va se retrouver au milieu d'enjeux qu'il dépasse complètement, c'est ça le principe.
Camille ressemble à un certain Alexis, non ?
Vaguement.
C'est vous qui l'avez choisi, vous lui avez soumis ou...
Je lui ai rien soumis du tout. Je lui ai imposé. C'est pour voir s'il allait se reconnaître ou pas.
C'était la surprise du chef. Pourquoi pas, après tout.
Ouais. L'écologie, la déforestation, ce sont des sujets qui vous préoccupent ?
Là, ça fait quand même partie des grands sujets contemporains qui conditionnent quand même la branche sur laquelle on est assise, quoi. Même si c'est pas un bouquin militant à 100%, si, on est...
Rappelons quand même, vous avez 64, 58, vous vous sentez... Non ?
64 ? Non, je suis né en 60.
En 60.
Vous me rajeunissez autant.
65 ?
60. Oui, je vais faire 65. Oui.
Ben voilà.
Je t'enquiquine.
Je veux dire, est-ce que ce sont des préoccupations vraiment... d'une époque, d'un âge où,
Ce sont des préoccupations de maintenant, mais et moi, en amoureux des papillons, ça me préoccupe particulièrement, parce que le fait est que quand la déforestation massive fait disparaître des espèces de papillons qu'on n'a même pas encore répertoriées ni identifiées, et donc c'est triste.
Puis ça lève quand même des comportements d'une mauvaise foi absolue, avec des multinationales qui détruisent une partie de la forêt amazonienne pour faire du wokisme et installer des champs de panneaux photovoltaïques, par exemple, mais qui, pour ça, détruisent un village autochtone pour qu'ils débarrassent leur coin de forêt et qu'on les foute en l'air, quoi. Et en plus, ont besoin de raser une partie de la forêt amazonienne pour faire ça. Donc c'est en ça aussi que c'est pas simple, quoi.
Mais d'un autre côté, il y a des paysans qui ont besoin de vivre, il y a des besoins. Enfin bon, les choses sont toujours très compliquées, hein. C'est jamais d'un seul morceau, donc c'est toujours.
C'est vrai, ce qu'on voit actuellement avec le nucléaire, l'énergie fossile, le retour de Trump. On revient à la case départ, certainement.
Oui, on en est même. Il y a un humoriste il n'y a pas longtemps, un dessinateur, qui a fait une blague sur les voitures électriques en disant « Bon, ben, je vais revenir aux voitures polluantes. »
Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on perd beaucoup plus avec des batteries qu'on empile et qu'on ne sait plus quoi en faire, parce que ce n'est pas recyclable. Et au bout du compte, on pollue moins avec une voiture énergie fossile.
Sans parler de l'extraction du lithium et tout ça.
Bah oui, c'est...
Mais comme je disais...
L'extraction du lithium, c'est un truc scandaleux. Mais voilà, on est en train de nous faire...
Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent.
Hein. C'est comme la guerre en Ukraine, finalement, avec les terres rares qu'on est en train de négocier. Enfin,
ce qui est intéressant là-dessus, c'est que maintenant, on dit à haute voix ce qui avant était caché. C'est marrant. Avant, on aurait enrobé ça avec des enjeux stratégico-politiques,
oui,
démocratiques.
Les poilus ne savaient pas que la guerre de 14, c'est une histoire de flics.
Alors que maintenant, on dit, il y a des sous à se faire.
Vous êtes partisan de la maxime, la fin justifie les moyens ?
Non. Forcément pas. Non, je préfère y regarder à deux fois quand même.
Vous avez côtoyé l'un comme l'autre l'univers du cinéma, que ce soit Walter Hill, David Fincher, et vous, Frédéric, avec un monstre sacré, Noël Simsolo, 80 ans maintenant, je viens de regarder. Là, c'est, 7e, 9e, ce sont deux planètes distinctes ou complémentaires ?
Distinctes. Pour moi, distinctes. Je trouve... Je me mets assez facilement en colère, c'est un défaut, mais je me laisse assez facilement emporter quand on fait un amalgame cinéma-BD. Parce que ce sont des disciplines narratives, certes, cousines, certes. Le piège a été d'utiliser les mêmes termes techniques de plan d'ensemble, plan moyen, gros plan, etc., et séquence. Pour moi, c'est une erreur parce que ça fait oublier des différences fondamentales de genre qui font que, tout bêtement, le traitement du temps au cinéma n'est pas le même que celui en bande dessinée. J'ai eu travaillé dans le dessin animé il y a 25 ans. J'ai dû me colter un tout petit peu à faire un storyboard en me disant... comme j'ai fait de la bande dessinée, ça va aller. Et en fait, il a fallu repasser et refaire tout le boulot derrière moi parce que je ne comprenais pas. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La gestion du temps au cinéma, certes, c'est une narration elliptique, mais le cinéma, ce sont des bouts de temps réels qui, mis bout à bout, créent un temps totalement imaginaire, artificiel. La bande dessinée, ce n'est pas ça du tout. D'abord, on a une vue d'ensemble, ce qu'on appelle la lecture tabulaire. On a une vue d'ensemble d'une page. Et puis en plus, on a, pour la quasi-totalité de l'album, une double page, des vis-à-vis. Le regard se balade là-dedans, guidé plus ou moins. On a la liberté d'en faire ce qu'on veut, mais voilà. Et puis, la BD est aussi un art de la narration elliptique, mais pas du tout de la même façon que le cinéma. La bande dessinée, on s'est souvent leurré avec le fait que c'était ce qu'on voit qui était le spectacle, alors qu'en fait, la narration, elle est portée par ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui se passe entre les cases qui est le plus important et qui fait avancer la lecture et la narration. C'est ce qu'avait parfaitement compris et développé Hergé. C'est en ça sa spécificité, c'est que sa narration, elle se déroule entre les cases. Vous pointez une case de Tintin au hasard, l'action s'est déjà passée, ou elle va se passer. Vous passez à la case suivante, c'est encore un stade avant, et ce qui s'est passé, c'est entre les deux. Le secret, c'est là. La différence, elle est là. Et en fait, j'ai essayé d'exploiter dans l'album, et j'en avais parlé très tôt à Mats au tout début, c'est que je ne veux pas faire du cinéma sur papier. Ça ne m'intéresse pas. Faire du cinéma sur papier... en BD, ça équivaut à passer totalement à côté des moyens spécifiques qu'offre la bande dessinée. C'est-à-dire les jeux avec le gaufrier, les équilibres de planche en vis-à-vis, les narrations en ellipse, le graphisme qui fait intercéder le blanc, etc., etc. Tout un tas de jeux qui sont infaisables autrement. Moi, mon but, une fois que j'ai fini un travail quelconque en bande dessinée, c'est que ça soit infaisable autrement que comme je l'ai fait. Et de fait, les romanciers qui m'intéressent le plus sont ceux qui tripotent, qui se collettent au médium littéraire, qui bossent avec les changements de typo, l'ordonnancement du texte, les ellipses, les choses comme ça. Au cinéma, c'est pareil. Il faut aussi s'amuser avec la narration, le son, les acteurs, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont... Moi, à partir du moment où une œuvre est facilement transposable dans un autre médium, c'est qu'à la base, elle est ratée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été utilisée à fond. Le médium de départ n'a pas été utilisé à fond. Moi, je veux que chaque fois que je pond une BD, ça soit inadaptable. Ou alors, il faille faire un tel boulot que ça soit un changement total.
Alexis ?
Mais moi, je me placerai plus du point de vue de la conception. Et... Moi, je suis d'accord que la BD doit être une BD, c'est pas du cinéma sur papier et tout ça. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je dirais juste que, comme c'est une économie totalement différente... Moi, je préfère travailler pour la bande dessinée, par exemple. Parce que dans la BD, on a une liberté géniale. Alors, c'est pas la même économie. Donc, y a moins d'enjeux, il y a moins d'un film ou une série télé ou quoi. Mais on peut expérimenter des choses, on peut bouger des structures narratives, on peut... Il y a une beaucoup plus grande liberté, il y a une fantaisie, je trouve que... qui en fait vraiment un médium... moi, j'adore ça, quoi. C'est vraiment un plaisir de faire des bandes dessinées.
Frédéric, vous êtes passé par Saint-Luc. Ouais. Vous avez suivi les cours de François Skuyten, que j'adore.
Et de Claude Renard.
Hein? Quelle influence a-t-il eu sur votre travail ?
Sur mon travail, directement, pas énormément. Ou alors de façon détournée. C'est au bout de et en plus ça s'est vu au bout de quelques années. En fait, c'est avec quand j'étais donc à Saint-Luc entre mes 18 et 21 ans, j'avais tendance à répéter un peu comme beaucoup de personnes. Blake et Mortimer, j'arrive pas à le lire parce que. Il y a beaucoup de text-off et ça raconte exactement ce qui se passe, ce qui est dessiné. Et or, il se trouve que François Skuyten et même Claude Renard étaient des fans de Blake et Mortimer et du travail des Jacobs, en tout cas dans sa meilleure forme. Et qui m'ont expliqué, en tout cas François m'a parlé avec des détails auxquels je ne pensais pas, et qui m'ont fait me rendre compte du fait que j'appréhendais cette lecture sous le mauvais angle. Et en tout cas, en jouant pas le jeu. Et il y a un mot, je me souviendrai toujours d'un mot que m'a dit François sur le fait que c'était une page par semaine qui passait dans Tintin, l'hebdo, et que il y avait tout ce qui était nécessaire, pas de trop, pas de moins, et que c'était peaufiné. Moi, c'est le mot peaufiné qui m'a fait le déclic, qui m'a expliqué que, en plus, la caricature qui consiste à dire le text-off répète ce qui est dessiné, c'est faux. Je me suis rendu compte que c'est faux. En fait, il y a toujours, dans l'un ou dans l'autre, dans le texte ou dans le dessin, il y a toujours un élément de plus qui fait passer dans la case à côté.
Non, mais c'est juste qu'on a la flemme de lire autant de textes.
Le problème, c'est que c'est un chant et un ton très particulier que certains autres auteurs ont essayé de pomper, de rattraper, etc. Mais c'est pas parce qu'on met une tartine de texte dessus de personnages qu'on fait du Jacobs. On va pas y arriver comme ça. Et le fait est que beaucoup se sont cassés les dents à essayer de retrouver ce ton. Ils n'y arrivent pas. Et où n'y sont pas arrivés. Il y en a eu dans le passé. Jacobs avait quelques personnes dans le collimateur dont il disait lui-même que j'étais un peu gonflé. Mais c'est le mot peaufiné. C'est pas... En fait, je parlais tout à l'heure de repentir. Et il y a un moment... Je suis pas malade des repentirs, de la correction sans fin, mais je ne vois pas tout de suite. Je suis très laborieux au niveau du dessin et je ne vois pas tout de suite ce qui ne va pas. Je mets un temps fou à me rendre compte de ce que je devrais modifier pour que ça corresponde au sens que je veux donner, à ce que j'ai dans la tête au niveau visuel, etc., etc. Et j'y arrive pas tout de suite. Et il faut effectivement peaufiner pour arriver à l'exactitude prévue. Et au meilleur de sa forme, Jacobs arrive à ça avec une personnalité très particulière qui combine une conscience très forte du médium et en même temps une énorme naïveté. Ce qui donne un mélange assez étonnant que personne n'arrive à imiter. Qui est très particulier parce qu'il faut être... On ne peut pas être Jacobs à la place de Jacobs. On n'a pas été élevé de la même façon, on ne vit pas à la même époque, etc. C'est normal. Ce qui rend la tâche très difficile. Et pour moi, François, la grosse influence, ça a été le mot peaufiner. Et que j'ai... dont je me suis aperçu au bout de 4-5 albums, où je me suis dit que je ne faisais pas preuve d'assez de rigueur. Et que la rigueur, ce n'était pas forcément une corvée. Ça pouvait même déboucher sur un plaisir.
On parlait d'Angoulême. Je ne sais pas si vous avez vu dans Libé, il y a quelques jours, qu'il y aurait eu un coup de force de la part de Franck Bondou, donc le directeur général, qui aurait pu avoir un impact. Donc il y aurait une sorte de fusion sur le festival. Qu'est-ce que représente Angoulême pour vous et croyez-vous que ça peut avoir un incident sur l'avenir de ce festival?
Bon, moi, je suis pas au courant de ça. Je sais rien, mais comme pour moi, Angoulême ne représente rien, je m'en fiche complètement.
Alors moi, j'ai un point de vue un peu différent parce que...
Vous avez eu un prix quand même, hein, Bloody Mary. Là.
C'est le seul prix que j'ai jamais eu.
Moi, j'espère finir ma carrière sans avoir jamais rien engoulé, parce que j'ai jamais rien eu. Donc,
Même
avec le tueur, avec 19 tueurs, on a même pas été nominé une seule fois en polar, en série, rien du tout. Donc, j'espère que je vais continuer comme ça.
Mais moi, le seul prix que j'ai eu, donc le prix Bloody Mary, c'était un prix parallèle. Je ne suis même pas monté sur scène pour recevoir le prix. Je suis resté dans mon fauteuil. Bon, enfin bref, ça c'est à part. Non, j'ai une... Pour moi, Angoulême, ça sonne toujours de façon un peu spéciale. D'abord parce que j'étais de l'autre côté de la barrière au tout début. Je crois que on m'a amené visiter... on m'a amené sur un festival, c'était le premier ou le deuxième. J'ai dû croiser Van Baudet, je ne le sais pas, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas. Van Baudet. C'est rien, tu connais pas la pop culture américaine des années 70. mais
c'est peut-être la première.
Donc j'ai un côté, j'ai un passif de lecteur qui arrive avec ses propres bouquins qui vient faire dédicacer. Donc j'allais faire dédicacer Fred, Alexis, le dessinateur. Des gens comme ça, j'ai le premier numéro de À Suivre dédicacé par Pratt, des choses comme ça. Je faisais mon fan. Et je montrais, évidemment, je me baladais partout avec mon carton en dessin et je montrais à qui voulait bien. Je me souviens avoir montré des planches à Régis Franck.
À qui n'avait pas le choix.
Des choses comme ça. Oui, il y a des moments où je me posais. Bon, et puis il y a eu le côté où je suis passé de l'autre côté de la barrière. Où pendant un temps j'ai été tout jeune, frémoulu, sortant de Saint-Luc, et donc je goûtais aux joies de la représentation et du végétarien tout à fait bidon. Et puis petit à petit, j'ai vu les choses se sophistiquer énormément, se développer à un stade pas mesurable, pas estimable, avec la population qui décuple. 15 jours, les hôtels qui sont pris à 40 km aux alentours de la ville.
Bah ça, c'est bien. Ça ait du succès, c'est super.
Oui, mais le reste du temps, à Angoulême, tu t'enquiquines sérieusement. Je suis poli. Quoi.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Il n'y a pas grand-chose.
Ce qui compte, c'est le festival.
Mais dans le festival lui-même, je sais pertinemment que je fais partie d'une génération et d'un genre d'auteur qui n'aura jamais rien à Angoulême. Mmh. je n'attends rien d'Angoulême particulier, de particulier, hormis 3 jours de représentation un peu plus dense qu'ailleurs.
Bah, c'est sympa pour rencontrer des copains.
Ah, mais c'est pour nous, c'est le rôle que jouent tous les festivals, que ce soit Angoulême ou un autre. C'est un prétexte à rencontrer des potes.
Dans une des aventures du tueur, vous citez Gustave Flaubert, tel le monde, quand on n'en pleure pas de rage, on en vomit de dégoût. Alors je me disais,
c'est pas mal.
Heureusement qu'il y a des Camille quand même, non?
Absolument, absolument. Mais Camille se retrouve lui-même aux prises avec des choses déplaisantes. Mmh. Mais non, Flaubert, c'est une bonne... Il a dit plein de choses très très bien, Flaubert.
Vous êtes des optimistes ou des pessimistes de nature?
Je ne sais plus qui c'est qui parlait de pessimiste joyeux.
Moi, je pense que ça ne sert à rien d'être pessimiste. C'est souvent une affectation.
Perte de temps.
Ça mène à rien.
Ça peut mener à une pause.
Si je peux me permettre une parenthèse personnelle, en fait...
Vas-y, fais ton pédale.
J'ai longtemps joué les pessimistes jusqu'au jour où j'ai eu un fils qui était très très malade à l'hôpital et tout ça. Et là, je me suis rendu compte que ça servait à rien du tout d'être pessimiste, en fait. Et ça marche pas, en fait. Le pessimisme, c'est marrant et tout ça. Et Dieu sait que j'ai des très gros doutes sur la nature humaine et sur mes congénères. Mais j'ai entièrement révisé ma position sur le pessimisme.
Mats, Frédéric Bézian, un grand merci. Donc on rappelle Les Papillons ne meurent pas de vieillesse, qui vient de sortir aux éditions Casterman. Merci.
Merci.